question, la question de la liberté chrétienne. La question de la liberté chrétienne est un grand sujet, pas évidemment en parler d'une manière exhaustive, parce que d'abord, c'est effectivement dans la Bible un thème important, et deuxièmement, parce que la revendication de la liberté dans notre société fait que précisément cette notion est souvent source de malentendus, d'ambiguïté, d'incompréhension justement entre le monde et puis la Bible. La première remarque que nous avons à faire dans ce domaine, c'est que, à l'inverse de tous les autres êtres vivants, l'être humain est un être libre. Il est créé pour la liberté. Et ceci parce qu'il est à l'image de Dieu. Cette vocation à la liberté qu'essaie de l'être humain se constate aussi dans sa condition physique. L'être humain, à l'inverse de tous les autres animaux, n'est pas conditionné, programmé pour un certain type de conduite. Et c'est quelque chose que l'on constate déjà donc dans l'organisation physique de l'être humain. L'être humain n'a pas, par exemple, l'instinct de certains animaux quant à sa nourriture. Il a une nourriture très variée. Ses possibilités physiques sont très limitées par rapport à celles d'animaux tels que, par exemple, des animaux qui sont faits pour la course. On voit que les chevaux, les gazelles, les animaux de ce type-là, c'est des animaux qui, manifestement, sont faits pour la course. D'autres sont faits pour être des animaux prédateurs. Ils ont des griffes, ils ont des dents développées, ils ont une force musculaire, etc. Bref, l'homme n'a rien de tout ça. L'homme, au contraire, je dirais, est inférieur, infiniment inférieur aux animaux quant à ses possibilités physiques. Sur le plan de la course, n'importe quel animal à quatre pattes le bat facilement, même le plus grand des champions. Sur le plan de la force physique, bon, il y a des animaux qui sont plus faibles que lui, mais il y en a qui sont infiniment plus forts. Sur le plan de la résistance, etc., bon, bref. L'être humain n'est pas donc prédéterminé à un certain type de comportement. On dirait aujourd'hui, il n'est pas programmé. L'animal est toujours programmé par un instinct. Il obéit à un instinct. Et si on peut prendre une image moderne, en ce sens, l'animal ressemble jusqu'à un certain point à un ordinateur. Il est programmé pour un certain type de comportement, un certain type d'activité, etc. Précisément parce que l'homme n'a pas de caractéristiques physiques développées, il n'est programmé pour aucun type de comportement a priori. Mais le propre de l'être humain, c'est qu'il a une extraordinaire capacité d'adaptation. Au point de vue nourriture, au point de vue habitat, il peut aussi bien vivre dans le Grand Nord, dans des conditions extrêmes, que dans les endroits les plus chauds de la planète, les déserts, les forêts équatoriales. Il peut même, n'est-ce pas, se comporter comme un oiseau et voler à des altitudes où n'importe quel animal, même les oiseaux les plus perfectionnés, mourraient par la raréfaction de l'air. Il peut même aller aujourd'hui dans l'espace. Il peut descendre dans les fonds sous-marins les plus importants, n'est-ce pas. L'être humain a une extraordinaire capacité d'adaptation, et c'est dans cela aussi que cette capacité d'adaptation lui donne une très très grande liberté. Mais la liberté de l'homme ne se situe pas tellement au niveau de son organisation physique, se situe plus au niveau justement de son esprit. Quand nous disons que l'homme n'est pas programmé et que les animaux le sont, hein, il faut nuancer. Il est vrai que les animaux supérieurs, plus on monte en quelque sorte dans l'échelle des animaux supérieurs, plus il y a une part de liberté qui apparaît. Les animaux supérieurs, les chiens, les singes, les chevaux, etc., sont capables d'un certain nombre de conduites qui ne sont pas dictées par l'instinct. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui plafonne très vite, même chez les animaux les plus évolués. De même chez l'homme, l'homme aussi est conduit par un certain nombre d'instincts. Il y a des instincts dans l'être humain qui sont en cela semblables aux instincts qu'on trouve chez les animaux. L'instinct de conservation, qui l'amène à vouloir sauver sa vie, hein, éviter les dangers qui pourraient mettre sa vie en danger. La recherche de la nourriture, ça c'est un instinct qu'il partage avec les animaux. L'instinct de reproduction, instinct sexuel. Le désir, n'est-ce pas, de confort, de tranquillité, d'un habitat confortable. Bref, il y a des instincts. Mais ce qui fait justement la différence de l'homme par rapport aux animaux, c'est que ces instincts qu'il partage justement avec le monde animal, dans lequel son être physique se plonge ses racines, même si on n'est pas évolutionniste, quand même. Il y a une parenté entre l'homme et les animaux qui nous est soulignée par le texte biblique lui-même. Dieu amène les animaux vers l'homme pour qu'il leur donne des noms. Car la vocation de l'homme, c'est de dominer sur les animaux. Ça veut dire, s'il doit dominer sur les animaux, ça veut dire que d'une certaine manière, il est un des leurs. On ne peut pas dominer sur quelque chose avec lequel on n'a pas quand même un minimum de solidarité. Mais à l'inverse, justement, des animaux, l'homme peut transcender ses instincts, peut dire non à ses instincts, au nom d'un intérêt supérieur. Et cet intérêt supérieur peut être un intérêt pour lui-même, le rejet d'un intérêt immédiat pour un intérêt plus lointain. Pour les autres, il renonce à satisfaire son instinct pour le bien de l'autre, et puis aussi pour le bien général, pour des idéaux, pour des idées, pour des réalités qui sont du domaine de la pensée, ce que l'animal supérieur est incapable de faire. Vous disiez tout à l'heure, l'animal supérieur est capable de certaines conduites altruistes. Et l'on connaît des cas, bien sûr, d'animaux, chiens notamment, qui sacrifient leur vie pour leur maître, tout en sachant très bien qu'ils vont au-devant de la mort, mais leur attachement à leur maître est tel qu'ils se sacrifient pour leur maître. Il y a des cas comme ça. Bon. Et là, si vous voulez, il y a un parallèle entre le comportement de l'animal et le comportement de l'homme. Bon, on ne pourra pas prendre comme exemple, alors là, celui de la mère dans le règne animal qui se sacrifie pour ses petits, parce que ça, c'est une question d'instinct aussi, n'est-ce pas ? Même s'il y a un aspect altruiste. Alors, bien sûr, il y a aussi des discussions très grandes aujourd'hui. L'instinct maternel existe-t-il ? Bon, ben, quand on le voit chez les animaux, il n'y a pas de problème. Bon. Mais l'animal ne sera pas capable de sublimer ses instincts pour des idées, pour des idéaux, pour des concepts qui sont du domaine de l'esprit. Et c'est dans cela que l'homme est supérieur aux animaux. Et la vision moderne de l'homme, qui tend à réduire l'homme à n'être qu'un animal supérieur, un peu plus perfectionné que les autres, fruit d'une évolution, qui nie l'affirmation essentielle de la Bible, à savoir que si l'homme plonge les racines de son être physique dans le monde animal, ce que la Bible souligne en disant l'homme est formé du limon de la terre, c'est-à-dire finalement il est terrestre comme les animaux, c'est ça que ça veut dire, ça. Eh bien, il y a une rupture entre l'homme et l'animal. Il y a une ressemblance, il y a une rupture. Il y a un fossé entre l'homme et l'animal. Le fossé, c'est le fossé de la pensée. C'est le fossé du langage, essentiellement. Le langage, la pensée s'exprimant par le langage. Et, pour reprendre le langage biblique, justement, c'est l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Image de Dieu, non pas dans son être physique, ce qui nous amène justement à nier ici tous les anthropomorphismes dont l'islam, par exemple, nous accuse d'être les véhicules, quand nous disons que l'homme est l'image de Dieu, et le Coran dit, mais non, c'est pas possible, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de jambes. Quand la Bible nous parle de la main de Dieu, du bras de Dieu, de la bouche de Dieu, des yeux de Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas accepter le témoignage biblique sur ces choses-là. Bon. Alors bien sûr, nous disons, ce sont des images, nous avons raison de le faire, c'est vrai, ce sont des images. Mais l'image de Dieu, ça ne veut pas dire justement que Dieu a un corps semblable à celui de l'homme, des bras, etc., mais ça veut dire que l'image de Dieu, c'est justement la possibilité de penser au travers d'un langage. Dieu est parole, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, et Dieu parle. Le propre de Dieu, c'est qu'il parle. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière suit, et la lumière fut. Et l'existence de la parole chez l'homme, l'homme est d'ailleurs le seul être qui soit capable de parler, de par sa constitution physique, n'est-ce pas? Sa bouche, son crâne, n'est-ce pas, fait qu'il soit le seul être vivant capable de parler. Bon, c'est pas, il ne suffit pas d'avoir simplement les os de la face qui sont conçus pour ce faire. Il faut encore avoir quelque chose à dire, il faut avoir une pensée, n'est-ce pas. Et la présence d'un langage pose la liberté. Parler, penser, c'est être libre. C'est parce que l'homme parle, et parce que l'homme pense qu'il est libre à l'image de Dieu. Parce que Dieu étant parole, Dieu étant esprit, pensée, n'est-ce pas ? Eh bien, il est libre. Alors, la grande différence aussi, de la même manière qu'il y a un abîme entre l'homme et l'animal, il y a un abîme entre l'homme et Dieu. C'est que Dieu est un pur esprit. Les anges, on aura l'occasion de voir ça quand on fera l'eschatologie, sont des purs esprits. L'homme n'est pas un pur esprit. Il est un esprit lié à un corps. Ça veut dire que coexistent en lui deux réalités. Une réalité terrestre, qui est l'instinct, et puis une réalité céleste, qui est la parole, la pensée et la liberté. Alors, l'homme est à la fois libre et en même temps, il est soumis à des contingences, à la nécessité. La nécessité, c'est justement l'inverse de la liberté. L'homme, tout libre qu'il soit, n'est pas libre de refuser de se nourrir. Se nourrir est une nécessité pour lui, comme pour l'animal. Alors, il peut évidemment refuser de céder à son instinct qui l'amène à rechercher la nourriture, et la nourriture raffinée. Il peut se limiter dans son alimentation pour toutes sortes de raisons, et certains le font pour des raisons qui sont très triviales. Les régimes amaigrissants et choses semblables sont justement une des preuves que l'homme a la liberté de ne pas répondre à son instinct animal qui l'amène à manger, à sa faim, n'est-ce pas ? Il peut éventuellement jeûner. D'ailleurs, le jeûne dans la Bible est là justement pour affirmer la liberté de l'homme par rapport à son instinct. Mais s'il persiste à ne pas s'alimenter, eh bien, il va mourir. Ça. Il viole ici la nécessité, la sanction du viol de la nécessité, c'est la mort. Ça. L'homme ne peut pas il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas éviter. Et la plus grande des nécessités, évidemment, dans l'ordre de la chute, c'est la mort. L'homme ne peut pas éviter la mort, c'est une nécessité. Bon. L'homme est donc soumis à des réalités qui sont contingentes et qui font que, ce faisant, il n'est pas un être entièrement libre. Sa liberté est relative, elle n'est pas absolue. Par contre, la liberté de Dieu est absolue. C'est la grande différence. Par conséquent, l'homme est à l'image de Dieu jusqu'à un certain point. Mais Dieu est plus grand que l'homme, et il n'est pas Dieu. Et précisément, la tentation de l'homme, c'est toujours, eh bien, vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu, ayant la liberté totale de Dieu. Et donc ici, liberté de l'homme, mais disons-nous, liberté relative. Il est à la fois libre et à la fois déterminé. Or, justement, à la suite des travaux de Freud en particulier, il y a l'idée de plus en plus répandue que même cette liberté relative de l'homme n'existe pas. Et que l'homme n'est rien d'autre qu'un être animal entièrement déterminé par des instincts d'une complexité infiniment plus grande que celle des animaux, y compris des animaux supérieurs. Et finalement, l'homme n'est rien d'autre qu'un ordinateur. Un ordinateur sophistiqué, certes, mais un ordinateur. Et le freudisme, la psychanalyse, nie la liberté de l'homme. Et ce que l'on pense être une conduite libre, si on analyse bien, dit Freud, et finalement déterminé par tout un ensemble de réalités qui nous échappent, qui sont du domaine de l'inconscient. Et la psychanalyse consiste justement à essayer de déterminer, eh bien, pourquoi, dans telles circonstances, qui me culpabilisent, par exemple, j'ai été amené à me conduire de telle et telle manière. Finalement, cet acte qui me culpabilise, et il n'y a de culpabilité que si je suis libre. Mais si je peux montrer que ma culpabilité n'était pas le résultat d'un acte libre, mais le résultat d'un déterminisme qui m'échappe, alors je vais être soulagé de mon sentiment de culpabilité. Ça veut dire, à partir du moment où je n'agis pas d'une manière libre, je ne suis pas responsable. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Alors, je ne suis pas responsable. Pourquoi ? Ben parce que cet acte-là vient de l'éducation que j'ai reçue, des tabous que j'ai refoulés, des traumatismes que j'ai subis dans ma petite enfance. Petite enfance, vraiment, là, les premières années, voire les premiers mois de mon existence, alors je ne peux pas m'en souvenir. Mais ça explique pourquoi je me suis conduit comme ça. Et finalement, je ne pouvais pas me conduire autrement que comme ça. De la même manière que le loup qui mange l'agneau, il n'est pas responsable, il n'est pas coupable. Vous n'allez pas condamner un loup à la prison, à lui faire un procès, parce que... Ben parce que c'est son instinct de manger l'agneau, que voulez-vous? Ça veut dire qu'il faut laisser les agneaux manger les loups. Les loups manger les agneaux, pardon. Mais ça veut dire que il faut essayer de protéger les agneaux pour qu'ils ne soient pas mangés par les loups. Mais si par malheur un loup mange un agneau, que voulez-vous? C'est pas au loup qu'il faut s'en prendre. C'est au maître de l'agneau qui n'a pas veillé, qui n'a pas fait en sorte de protéger l'agneau. C'est tout. C'est lui le responsable, en fin de compte. C'est pas le loup. Par contre, tout le droit, si vous voulez, le droit qui remonte depuis Hammurabi, les premiers codes de l'Antiquité, le droit, n'est-ce pas, partait de l'idée que l'homme est libre. Libre de ses actes, notamment dans le domaine moral, et qu'étant libre, il est responsable de ses actes. Il est responsable de ses actes au moins devant la société, et il est responsable de ses actes devant la divinité, devant les dieux ou devant Dieu, si on remonte plus haut. D'ailleurs, qui dit loi, dit notion de liberté. La loi, il y a loi parce qu'il y a liberté. Vous n'allez pas donner une loi à des animaux, parce que les animaux sont incapables de respecter la loi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dresser un animal pour lui inculquer un comportement qui est contraire à sa nature, qui est contraire à son instinct. Mais c'est un jeu de mécanisme qui ne fait pas appel à la liberté de l'animal. D'ailleurs, on substitue, si vous voulez, à un instinct un autre instinct. Un instinct qui va être acquis et non pas inné, c'est tout. Et Freud nous dit justement, l'éducation c'est ça pour l'homme. L'éducation c'est pas la liberté, c'est un dressage. C'est-à-dire que on inculque à l'homme un certain nombre de comportements instinctifs qui ne sont pas des comportements innés, mais des comportements acquis. Et c'est pourquoi, quand on a affaire à des criminels, à des délinquants, à des déviants de tous ordres, c'est pas au criminel qu'il faut s'en prendre. Lui, il est aussi responsable que l'est le loup qui mange l'agneau. Qui est responsable? Eh bien, son instinct, peut-être. Il y a des gens qui ont des instincts pervers plus que d'autres, etc. C'est pas de leur faute. Les homosexuels, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça, c'est leur instinct. Les sadiques, ceux qui violent les petits-enfants, c'est leur instinct, ils sont nés comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les encourager à violer les petits-enfants. Il faut protéger les petits-enfants, mais on ne peut pas condamner ces gens-là, parce que c'est comme ça, c'est leur instinct. Et puis à côté de ce qui est inné, il y a ce qui est acquis, ce qui est le fait de la société. Là, on revoit Rousseau qui considérait que le drame est venu de la société. Quand l'homme a vécu en société au commencement, l'homme vivait libre, tout seul dans la nature, n'est-ce pas? L'homme naturel, il y a un petit peu l'écologie qui aujourd'hui revient un petit peu sur cette notion-là. Et donc, il donnait libre cours à ses instincts innés, exactement comme les animaux. Puis, c'est tout allé très bien. Mais le jour où il a vécu en société, il a fallu faire une loi. Donc, si vous voulez, il y a eu un dressage qui a été un dressage acquis, et non plus quelque chose d'inné. Mais tout ça, il n'est pas question de liberté. N'est-ce pas? Il n'y a pas de liberté. Alors, c'est le drame de notre société. Il n'y a plus de liberté. L'homme n'est pas un être libre. Il est tout simplement un ordinateur sophistiqué ou un animal sophistiqué, ce qui est pareil. Donc, il n'y a pas de responsabilité. D'ailleurs, devant qui y aurait-il une responsabilité? Au mieux, devant la société. Mais la société, c'est elle qui, par sa culture, par ses lois, par ses tabous, conditionne l'être humain. Et précisément, la liberté, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de retrouver l'état de nature. Et ça, c'est Rousseau. On revient à fond à Rousseau. L'état de nature, c'est précisément l'état où l'homme se livre sans réserve à ses instincts innés, qui par définition sont bons. Parce que tout instinct est fait dans le but, si vous voulez, de l'intérêt de l'individu. L'instinct, par exemple, qui pousse un être vivant à se nourrir, c'est bon, parce que s'il n'a pas envie de se nourrir, il va mourir. C'est nécessaire pour lui qu'il se nourrisse. Donc l'instinct de reproduction, il est bon. Parce que si l'animal ne se reproduit pas, l'espèce va disparaître. L'instinct de fuite devant le danger, de conservation de la vie, c'est bon parce que ça protège l'animal des dangers qu'il pourrait connaître. Donc, les instincts innés dans le cœur de l'homme sont bons. Par contre, ce qui est mauvais, ce sont les instincts acquis par la société, par l'éducation, et surtout par la religion, qui inhibe qui amène l'homme à l'idée qu'il existerait une morale, n'est-ce pas? Il n'existe pas de morale. Il n'y a pas de morale, puisqu'il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de morale. Et par conséquent, il faut détruire la loi. Toute loi. Toute loi doit être détruite parce que toute loi est asservissante. Toute loi est aliénante. Toute loi empêche les instincts bons de l'homme de se manifester. Alors, il faut absolument détruire tout ce qui est aliénant pour l'homme, l'État, la religion, la famille, l'éducation, la morale, la notion de liberté, dans le sens que nous avons exprimé là, pour lui donner simplement la liberté, c'est tout simplement l'abandon à ses instincts naturels, l'abandon à ses tendances et à ses penchants. Alors évidemment, on ne peut quand même pas revenir à l'époque du bon sauvage. Chacun ne peut pas avoir sa petite forêt à lui tout seul, où il va vivre dans les arbres en mangeant des bananes, bon, à la Tarzan, c'est pas possible. On est obligé de vivre un petit peu en société quand même. Alors bien sûr, il faut bien un minimum de loi. À partir du moment où on est en société. Et ça, ces bons apôtres ne réfléchissent pas à une seule mesure, un seul instant, n'est-ce pas, que finalement, bah, la loi pose la notion de liberté. Alors ils diront non. Regardez, les sociétés animales, elles ont des lois. Les sociétés animales sont très hiérarchisées. Chez les loups, vous avez les dominants, vous avez les dominés, vous avez tout un code, un système, un langage, ils communiquent entre eux par des grognements, par des signes, par des ceci, par des cela, etc. D'accord. Mais ça, la grande différence, c'est que ce sont des lois naturelles, instinctives. Il n'y a pas un comité des loups, comme dans l'histoire du livre de la jungle avec les louveteaux, où les loups se rassemblent au rocher du conseil sous la direction d'Akela, puis là, ils décident. On décide que quand un loup voudra faire sa soumission à l'autre, il se met sur le dos, puis il met les pattes en l'air pour montrer qu'il se rend. Il n'y a jamais eu de décision comme ça chez les loups. Ça se fait instinctivement. Bon, c'est vrai que c'est une société qui a ses lois. Mais ces lois, elles n'ont pas été codifiées. Tandis que l'homme codifie des lois dans la liberté. C'est ça la grande différence. Alors il faut bien un minimum de lois. Alors pendant tout un temps, on a cherché la loi naturelle. C'était justement la grande... au 18e, après la Révolution française, il y avait soi-disant des lois naturelles. Bah, finalement, on s'est rendu compte que ce que disait Pascal en son temps, bah, vérité au-delà des Pyrénées et erreur au-dessous, ça reste toujours, que voulez-vous. Hein, quand on a parlé de la conscience, on a déjà vu ce problème. Il n'y a pas de loi naturelle, comme chez les sociétés animales. Vous allez me dire, mais les grands principes, tu ne tueras pas. Pas obligatoirement. Au contraire, il y a des moments où tuer quelqu'un, c'est formidable. Tuer quelqu'un en guerre, en temps de guerre, si vous allez tuer, n'est-ce pas, plus vous aurez tué d'ennemis, plus vous aurez de décorations. Alors, c'est... Pourquoi ce qui est interdit dans un certain moment, soudain devient une vertu dans un autre temps. Si en temps de paix, vous tuez quelqu'un, vous êtes un criminel. Si en temps de guerre, vous tuez quelqu'un, un ennemi, vous êtes un héros. Vous allez comprendre. Pourquoi ? Alors vous me direz, mais oui, mais parce que la guerre... Bon, d'accord. Mais imaginez un animal, un chien ou un chimpanzé auquel on explique ça, dit les hommes, bah, à certains moments, ils n'ont pas le droit de tuer leur prochain. Et le moment, au contraire, ils ont le devoir de le faire. C'est pas logique. C'est pas logique. Bon, on pourrait prendre de nombreux exemples comme ça. Vous connaissez l'histoire de Don Richardson dans L'éternité dans leur cœur, où la traîtrise dans une certaine population, n'est-ce pas, qu'il a été à l'évangéliser en Nouvelle-Guinée, était le summum de la vertu. Gagner la confiance d'un voisin, et puis quand on a vraiment acquis sa conscience, le trahir, au moment où il s'y attend le moins, bah, c'est formidable. Ça, c'est la conduite la plus vertueuse à laquelle on puisse rêver. N'est-ce pas ? D'où la difficulté de Don Richardson pour prêcher l'évangile à ces gens-là, parce que quand il leur a parlé de l'évangile, Judas le traître, c'était le héros. C'était le héros, parce qu'il avait acquis la confiance de Jésus, puis il l'avait trahi. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a pas de loi naturelle. Parce que, encore une fois, ici, nous sommes dans le domaine de la liberté. L'homme est un être libre. Il n'est même pas conditionné par une loi naturelle, parce que qui dit loi naturelle dirait que c'est un instinct. Et dans le domaine moral, il n'y a rien d'instinctif. Et le drame de l'homme moderne, justement, c'est qu'il nie tout ce qui est humain. Il nie le fait, justement, qu'il ne soit pas soumis à la nécessité. Finalement, quand vous vous livrez à vos instincts, notamment l'instinct sexuel, parce que finalement, dans nos sociétés, la liberté, c'est quasiment synonyme aujourd'hui, après mai 68, de liberté sexuelle. Il n'y a pratiquement plus que celle-là. Eh bien, celui qui se livre à ses instincts, même les plus bestiaux, comme l'homosexualité, ce qu'on appelle la pédophilie, la pédophilie, c'est pas encore passé dans les mœurs, ça viendra peut-être, il ne faut pas désespérer de rien. Mais enfin, l'homosexualité, en tout cas, ou des choses comme ça, ou le aller avec le tout venant, n'est-ce pas? Bien, c'est normal. Vous avez envie de le faire. C'est donc que c'est l'instinct. C'est l'instinct naturel. Regardez les animaux, d'ailleurs. C'était le slogan qu'il y avait dans la feuf en son temps. La sexualité, c'est naturel. C'était leur slogan. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un instinct naturel. Si vous bridez l'instinct, d'un animal, vous allez modifier son comportement, il va être un anormal. Ça va être un individu qui va être anormal. Donc, si vous empêchez quelqu'un, un jeune, par exemple, de se livrer à ses instincts sexuels naturels, vous allez en faire un anormal. Vous allez en faire un détraqué, vous allez en faire un névrosé. Par conséquent, le jeune a envie d'aller avec la petite copine de 12 ans. Eh bien, mais bien sûr qu'il faut qu'il fasse. S'il en a envie, comme disait un formateur un jour, dans un truc de formation de BAFA, justement, il expliquait ça, et c'était un pasteur, il se lève, il dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien. Il dit, si, admettons que dans un camp de jeunes, le cuisinier qui a 50 et quelques années a envie d'aller avec une petite de 14 ans, là, c'est possible, ça? Vous trouvez ça normal? Oui, répond l'autre, si elle est consentante. Alors le pasteur ne s'est pas laissé démonter, il dit, vous avez des enfants, vous? Oui. Combien? Ben, j'ai deux filles. Quel âge? Ben, à peu près ces âges-là, quoi. Et alors, ça ne vous dérangerait pas, vous, que, comme ça, votre fille serait dans un camp, et puis que le cuisinier, et puis l'aide-cuisinier, et puis les autres, comme ça, là, bon, embarras du bon père de famille, vous comprenez? Ça allait bien pour les enfants des autres, mais quand c'était ses propres enfants, c'était un petit peu différent, quoi. Bon, enfin, passons. Mais pour dire que c'est la pensée. La sexualité, c'est naturel. Donc, c'est naturel. Et si nous, aujourd'hui, au nom de l'Évangile, ou au nom de quoi que ce soit d'autre, finalement, nous empêchons les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on en est maintenant aussi comment est-ce qu'on appelle ça, les booms, quoi. Les booms des personnes du troisième âge, voire bientôt du quatrième âge. On voit ça, les cas entiers là, de gens du troisième âge qui vont se promener à droite, à gauche, etc. Et puis c'est pareil. Parce que c'est naturel, qu'est-ce que vous voulez, c'est naturel, ça fait partie de l'instinct de l'homme. Et si on contrarie l'instinct, ben, ça ne va pas, quoi. C'est de là que viennent tous les malheurs, c'est là que les gens sont malheureux. Mais au contraire, livrez-vous à tous vos instincts. Alors, vous avez deux enfants, trois enfants, quatre enfants, votre femme ne vous plaît plus, vous avez envie d'une autre qui est plus jeune, qui est plus belle, etc. Eh bien, c'est normal, c'est votre instinct, que voulez-vous? Et qu'est-ce qui va se passer alors pour les enfants, pour la femme qui va être abandonnée? Qui débrouille? Qui débrouille? Ce qui est important, c'est vous. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de... etc. Alors, ça, c'est le drame. Pas de responsabilité, donc pas de loi, et donc pas de morale, pas de conscience. Ça veut dire que finalement, l'humain disparaît. Et comme l'a fort bien montré Francis Schaeffer, eh bien finalement, cette situation-là est une situation intolérable pour l'homme. L'homme qui est soi-disant libéré, parce que c'est ça, n'est-ce pas, on emploie l'expression libéré, c'est surtout pour les femmes, n'est-ce pas, le féminisme aussi repose sur ce genre de postulat. Libérer la femme, pourquoi libérer la femme? Libérer de quoi? De l'oppression masculine, mais pas seulement. Permettre, si vous voulez, à la femme de se comporter comme un homme dans le plan justement de l'immoralité. Avant, qu'est-ce que vous voulez, les femmes avaient un peu plus de scrupules à se livrer à tous leurs fantasmes, parce qu'il y avait toujours le risque qu'elles deviennent enceintes. Bon, maintenant, formidable, depuis mai 68, on a la pilule. Donc la femme a acquis sa liberté. C'est ça, la liberté de la femme, c'est essentiellement ça. La femme, maintenant, peut jouir sans contrainte, comme disaient les gens de mai 68. Alors, on parlera des femmes libérées. Ça, c'est une femme libérée. Quand on dit ça, on a tout dit. Ça veut dire une femme qui se livre à tous ses instincts les plus bas. Bon. Et Francis Schaeffer dit cette situation d'homme ou de femme libérée, entre guillemets, est la pire situation dans laquelle puisse se trouver un homme. Parce que, précisément, eh bien, l'homme n'est plus un homme. Et il ne sait plus qu'il est un homme. Et c'est le grand drame de l'homme moderne. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Alors, on lui dit quoi à cette question, n'est-ce pas? Les grandes questions éternelles de l'homme, d'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Bien, tu viens du singe, donc tu n'es rien qu'un singe un peu plus perfectionné. Tu vas là où va le singe, au néant, à la destruction, à la mort. Qui suis-je? Bah, tu es un singe un peu plus perfectionné. Ou si tu veux une autre image, tu es un ordinateur un peu plus perfectionné que les autres, mais un jour on fera des ordinateurs qui seront plus perfectionnés que toi. De toute façon, ça reste à démontrer. Mais enfin, c'est ce qu'on veut lui faire à croire. Finalement, il n'y a rien de plus angoissant que de savoir qu'un jour, il y aura un ordinateur plus perfectionné que soi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'ordinateur est un instrument qui fascine et qui fait peur. Et vous avez ça dans les trucs de science-fiction, les robots, n'est-ce pas, les robots qui attaquent, etc. Bon, ça fait peur. Comment une machine issue de mon cerveau, finalement, parce qu'un ordinateur, c'est une machine qui est issue de mon cerveau, va pouvoir me dépasser et être plus humaine que moi, en quelque sorte. Ben oui, puisque tu n'es, après tout, tu n'es qu'un stade de cette évolution, n'est-ce pas, d'une technique un peu plus développée. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu n'es rien. Tu es un zéro. Tu es zéro. Tu n'existes pas. Et c'est l'angoisse du néant. Non seulement du néant de la mort, la nécessité des nécessités dont nous parlions tout à l'heure, mais l'idée déjà d'être soumis à la nécessité des ici-bas, à la mort. Quelle est la totale absence de liberté? C'est la mort. Dans la mort, il n'y a plus de liberté. Or, je suis déjà ici-bas soumis à la nécessité. Jouissez sans contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu n'es qu'un zéro. Ça veut dire que tu n'es que néant, un peu plus de néant, c'est tout. Et ça, c'est le désespoir de l'homme moderne. C'est l'angoisse de l'homme moderne. Et c'est pourquoi l'homme essaie d'échapper à ce néant en se lançant encore perdu dans la construction d'un monde entièrement dominé par le technique. Le technique est l'expression de l'hubris de l'homme. L'hubris, c'est un mot grec, signifie orgueil. N'est-ce pas? Il faut laisser quelque chose. Il faut laisser une trace. Et c'est Mitran qui construit la pyramide du Louvre et qui construit l'arc de la Défense pour immortaliser son nom, pour qu'on se souvienne de lui. C'est Khéops qui construit les grandes pyramides pour qu'on se souvienne de lui. Immortaliser, que quelque chose de moi reste. Bon, le petit individu, quand on s'appelle Mitran, quand on s'appelle Khéops, on peut espérer que léguer son nom à l'histoire, mais quand on s'appelle Monsieur Tout-le-Monde, alors faisons une œuvre collective, c'est Babel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, quelque chose qui reste. Et l'homme moderne, l'homme qui n'a plus une notion de liberté, se jette à fond dans la grande aventure technicienne qui est l'ultime espace de semblant de liberté qui lui reste. Hein, construisons un monde extraordinaire à l'image de l'homme, ma foi, qui sera extraordinaire. C'est même pas une question simplement d'améliorer notre vie. On ne se pose pas quand on construit quelque chose de moderne. Est-ce que ça va être bon pour l'homme ou mauvais? Quand on a construit la bombe atomique, ce n'était pas pour savoir si c'était bon ou mauvais. Quand on a construit des missiles, n'est-ce pas, qui pouvaient aller dans la stratosphère, ce n'était pas pour savoir quelle utilité on pourrait en faire. Après, on trouve, quand on a construit, qu'on a fait une découverte, alors on essaie de trouver des applications concrètes et pratiques. Mais quand les savants de Los Alamos ont réussi la fission de l'atome, ils ont eu l'impression d'être des dieux, d'avoir touché à la structure de la matière. Et c'était ça. C'est d'abord, n'est-ce pas, un orgueil qui dit, dans le fond, non, je ne suis pas un zéro. Je ne suis pas rien, puisque j'arrive à toucher à l'essence même de l'être. Donc je suis quand même un petit peu dieu. Et alors, l'aventure technicienne devient le but en soi, le but de l'existence, le but du monde. Et malheur à vous si vous n'entrez pas dans l'aventure technicienne. Parce que c'est le seul moyen justement d'échapper au vertige du néant. Alors, en face de cette notion de la moderne, dont on voit bien tout de suite qu'elle est aux antipodes de l'Évangile, justement. D'où justement la difficulté qu'il y a aujourd'hui de prêcher l'Évangile. Parce que quand on prêchait l'Évangile dans d'autres temps, où justement l'esprit de l'Évangile, la pensée de l'Évangile imprégnait la culture, quand je dis, il faudrait plutôt dire du judéo-christianisme que l'Évangile même, à savoir l'idée que tout le monde partageait, qui n'était remise en question par personne, que l'homme était un être libre. Ça, quand j'étais enfant, je faisais de la morale à l'école, hein, bien ça, c'était une évidence. L'homme est un être libre. C'était le thème que j'avais eu à traiter au bac de philo, c'était une citation de Saint-Exupéry, « Être homme, c'est être responsable ». Bon, ça semblait une évidence, il fallait démontrer ça. Il avait raison, 100% raison. Aujourd'hui, aller dire ça, on va vous prendre pour un attardé, quoi. Donc, être responsable, ça voulait dire la loi. Il y avait la morale laïque qui coïncidait, qui était la réplique copie conforme de la morale chrétienne. Il n'était pas question de se livrer à ses instincts, l'homosexualité, le divorce, toutes ces choses-là. Mais enfin, c'était impensable. Alors bon, on pouvait discuter ensuite, savoir comment l'homme pouvait faire usage de sa liberté, alors devant Dieu, pas devant Dieu, devant la société ou devant Dieu. Bon, selon qu'on était croyant, qu'on n'était pas, puis après qu'on était croyant catholique, protestant, juif, tout ça, bon. Là, il y avait des nuances. Mais sur le substrat, sur le fondement, tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, c'est plus. Ça, il faut le savoir. Et c'est pourquoi, justement, l'éthique chrétienne est battue en brèche. Et vous comprenez bien quand Jean-Paul II rappelle les principes de l'éthique chrétienne, justement dans le domaine familial et sexuel. Mais il est quelqu'un qui bride la morale naturelle. Et quand nous étions dans la feuf et que nous devions dire que la sexualité, je disais le slogan tout à l'heure, c'est naturel, et que par conséquent, il y avait un autre slogan qui venait immédiatement, la sexualité c'est la santé, santé physique et santé morale, sous-entendu. Et quand nous nous disions ça, non, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous étions pour un système répressif, fasciste. Attention, il y a le mot qui vient aussi, fasciste. Assimilation avec un système politique. Hein. Et par conséquent, c'est impensable. Et à la limite, même nos enfants, si nous empêchons, comment vous empêchez vos enfants d'aller à droite, à gauche, avec les copains, les copines, dans les booms, avec les préservatifs et tout. Mais enfin, mais vous êtes répressif, vous vous rendez compte que vous êtes en train de les traumatiser, vous en faites des névrosés à vos enfants. C'est ça. Et les gens le croient. C'est pourquoi il ne faut plus corriger les enfants si vous donnez une fessée, si vous donnez une gifle, mais vous avez une éducation répressive. L'enfant, il a besoin de s'épanouir, il faut qu'il laisse libre cours à ses instincts, il n'a pas envie de travailler, ben laissez-le, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie d'apprendre ses leçons, ben laissez-le, il a envie plutôt d'aller regarder la télévision, ben laissez-le. C'est ça la véritable éducation, parce que c'est laisser libre cours à ses instincts naturels. On voit le résultat, on connaît l'arbre à son fruit, dit Jésus. Il n'y a qu'à voir notre société pour se rendre compte que maintenant, donc, puisque... j'ai l'instinct de, l'île du trou, là, le brave du trou qui défrait la chronique en Belgique, il a assassiné je ne sais plus combien d'enfants, des dizaines, je ne sais plus. Bon, enfin bon, de très nombreux, bah, que voulez-vous, c'est dommage pour ces pauvres enfants-là, mais enfin, voilà. Hein. C'était son instinct. Et puis alors, les autres font comme du trou, et on en prend toujours. On apprend que, vous savez, une petite fille a été enlevée par trois schnappants de 14-15 ans dans un supermarché, ils l'ont torturée, ils l'ont assassinée, ils l'ont violée. Et puis voilà, ça se produit comme ça couramment. L'autre jour, le gamin qui rentre, qui avait pris, je sais pas, un fusil à son père aux États-Unis, qui s'est déguisé en Zorro, comme il l'avait vu dans un film, et puis qui va ouvrir le feu sur les copains dans une école, je ne sais plus combien d'enfants ont été tués. Et, bon, que voulez-vous? Alors voilà, on récolte ce qu'on a semé. On reconnaît l'arbre à son fruit. Alors, est-ce ça la liberté? Non, mille fois non. La Bible est claire. Encore une fois, c'est à la liberté que vous avez été appelés, mais ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et la vision chrétienne de la liberté est aux antipodes de ça. La liberté, elle vient aussi d'un autre aspect extrêmement important pour la Bible. C'est que l'homme est un être, parce qu'il est à l'image de Dieu, encore une fois, qui est capable d'aimer. Dieu est amour. Et parce que l'homme est capable d'aimer, il est à l'image de Dieu. Vous allez me dire, certains animaux sont capables d'aimer. Ils sont capables d'aimer leurs petits. Ça, c'est instinctif. Ils sont capables de s'attacher à leur maître. Bon, c'est vrai, c'est les animaux supérieurs. C'est limité quand même. Mais l'homme est capable d'aimer son prochain et ce qui, au sens premier du terme, ce que Jésus résumera dans le sermon sur la montagne en disant, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et à la limite, on pourrait dire, certains animaux n'agissent-ils pas de même? Mais la liberté de l'homme, c'est de faire des choses qui ne sont pas naturelles. Oui, c'est vrai. Ne pas céder à l'instinct sexuel, quand il le pousse à quelque chose qui est contraire à la bienséance, c'est pas naturel, mais c'est humain, parce que le propre de l'humain, c'est de ne pas se livrer à ses instincts, c'est de dire non à ses instincts. Et au nom de quoi? Au nom de l'amour, justement. Et parce que l'homme est aimé par Dieu, et ça c'est la grande affirmation de l'Évangile, parce que Dieu est amour, Dieu aime l'homme. Et Dieu crée sa créature, et Dieu crée l'homme parce qu'il est amour, parce qu'il a besoin de quelqu'un à aimer. Il a besoin d'un autre en dehors de lui, avec lequel, qui soit différent de lui, qui soit en face de lui, mais qui va devenir un avec lui, c'est ça l'amour. Et c'est aussi l'image du couple qu'on trouve au début de la Genèse. Je lui ferai une aide. « Ezer kenegdo », dit la Bible. Ça veut dire, littéralement, une aide contre lui. Ça veut dire différente de lui. Mais parce qu'elle est différente de lui, elle est extérieure à lui, à la limite, elle est en face de lui, mais la vocation de l'homme et de la femme, de deux êtres qui sont différents, qui sont l'un en face de l'autre, donc différents, c'est de devenir un. Les deux deviendront une seule chair, à l'image de Dieu. Et la vocation de l'homme, c'est de devenir un avec Dieu, tout en étant différent de Dieu, tout en étant en face de Dieu. Et en même temps, donc, aussi, l'homme est capable d'aimer, du moins dans sa vocation première, et même dans sa vocation même d'être déchu. Il est capable d'actes d'amour. Et bien précisément, l'amour, c'est ça qui fonde la liberté. C'est au nom de l'amour que je vais renoncer à mon instinct, à ce qui est naturel. Ça peut être l'amour pour mon prochain, pour celui qui est mon plus proche prochain, ma femme, mes enfants. Ça peut être l'amour pour quelqu'un qui pourrait, à la limite, m'être indifférent, a priori, le passant dans la rue. Et c'est le bon samaritain qui voit le malheureux tomber entre les brigands. Et il fait un acte d'amour. Le sacrificateur et le lévite passent outre. Ça veut dire qu'ils font ce qui est naturel. Ça veut dire que c'est se déranger, c'est prendre des risques de s'occuper de ce pauvre gars-là, n'est-ce pas? Pas vu, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je passe outre. Ça, c'est naturel. C'est la voie de la facilité. Mais le Samaritain est ému de compassion et il fait un acte antinaturel. Il va s'occuper de cet homme tombé entre les brigands. N'est-ce pas ? Et ça peut être, dit Jésus, à l'extrême. L'amour pour l'ennemi. Et c'est ce dont je parlais hier avec les gens du Chambon qui, en 1789, ont caché les prêtres réfractaires dans les cachettes qu'ils avaient préparées pour leurs pasteurs alors que ces mêmes prêtres réfractaires, quelques années auparavant, pourchassaient leur pasteur, l'ennemi. Mais l'ennemi est dans le besoin. Eh bien, j'aime mon ennemi. Je fais du bien à celui qui m'a persécuté. Ça, c'est le comble de l'amour. Ça, c'est antinaturel. Jésus dira dans un autre texte, vous connaissez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, c'est l'attitude la plus antinaturelle qui soit. Parce que l'instinct naturel de l'être humain l'amène justement à vouloir conserver sa vie. Et Jésus nous pousse exactement à l'inverse. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, par amour pour moi, celui-là la sauvera. Et puis enfin, avoir une conduite antinaturelle par amour pour Dieu. Ce qui est le comble de l'amour aussi, car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et précisément, c'est le martyr. D'ailleurs, la tradition juive appelle le martyr Kiddush Hashem la sanctification du nom de Dieu. Et on raconte que quand Rabbi Akiva a été supplicié, et que donc on l'emmenait vers le supplice, il a dit à ses disciples, toute ma vie je me suis demandé comment on pouvait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Bien aujourd'hui que je vais au martyr, que je donne ma vie pour glorifier Dieu, bien j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Donc, si vous voulez, c'est rien de plus antinaturel que l'amour. Et l'amour, justement, est le garant même de la liberté. Parce que, dans l'amour, je vais faire des actes qui sont antinaturels, qui sont imprévisibles pour l'homme naturel, et qui, par conséquent, sont des actes de véritable liberté. Des actes qui ne sont pas dictés par la nécessité. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est un acte de liberté, c'est un acte d'amour. Parce que tu n'es pas obligé de partager ton pain avec celui qui a faim. Aucune loi ne peut même te l'imposer. Et qu'est-ce qui peut t'amener à renoncer à ton pain à toi, celui dont tu as besoin pour soutenir ta propre nourriture, pour le donner à celui qui a faim à côté de toi? C'est l'amour. Bon, quand on a du pain à revendre, comme c'est notre cas aujourd'hui dans nos pays nantis, c'est pas trop difficile de donner du pain à celui qui partageait ton pain avec celui qui n'en a pas. Tout à l'heure, quand nous regardions le film sur le chambon, le commentateur disait une des grandes difficultés de ces gens-là, c'est justement ils étaient très pauvres, et accueillir pour eux des jeunes gens, ou surtout des jeunes gens de 13-14 ans qui mangeaient beaucoup, etc., c'était un problème. Parce que il fallait partager le peu qu'ils avaient. Et encore une fois, comme disait cette femme que David a interviewée, dont j'ai entendu le témoignage, j'étais obligé de faire. J'étais obligé. J'avais peur. Pendant toute la guerre, j'ai eu la peur au ventre. J'étais obligé de faire ce que j'ai fait pour ces Juifs. Pourquoi? Il y avait une loi, il y avait quelque chose. Non. L'amour. L'amour que sa foi dans le Dieu de la Bible exigeait d'elle, pour son prochain, l'a amené à prendre des risques pour sa propre vie, pour la vie de sa famille. C'est un acte d'amour et c'est un acte de totale liberté. Parce qu'il est contraire à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est instinctif, à tout ce qui est conditionné par l'instinct de l'homme. C'est ça la vraie liberté. Et la liberté de l'Évangile, c'est celle-là. Or, justement, la liberté de l'Évangile nous est donnée dans la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance nous affranchit, justement, de l'esclavage de nos instincts. Ceux qui sont en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul, ont crucifié la chair, c'est-à-dire l'être instinctif, avec ses passions et ses désirs. Or, la chair, justement, c'est à la fois ce qui est instinctif et qui n'est ni bon ni mauvais. Avoir faim, c'est pas mauvais. Hein. Manger quand on a faim, c'est pas mauvais. Vouloir sauver sa vie quand on est en danger, c'est pas mauvais, c'est normal. Mais dans certains cas, ça peut l'être. Dans certains cas, justement, on a vu ça dans les camps de concentration aussi. C'est pas des gens qui, par exemple, j'ai lu dans certains textes, vous savez que les prisonniers russes étaient particulièrement maltraités. Les prisonniers français ou ou autres, n'est-ce pas, avaient une maigre pitance, très très maigre, beaucoup mouraient, n'est-ce pas, dans les camps, vous savez, c'était, la malnutrition était un des maux endémiques des camps de concentration. Mais les prisonniers russes, qui étaient une sous-race pour les nazis, étaient encore plus maltraités que les autres. Et certains prisonniers français, bien, voyez ces pauvres gens qui mouraient de faim, et prenaient sur leur maigre pitance, se privant eux-mêmes, pour faire passer clandestinement aux prisonniers russes qui étaient dans le camp à côté, là, n'est-ce pas, le peu de nourriture qu'ils avaient. Ça, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est différent, dans une condition pareille, de prendre de son nécessaire pour le donner à celui qui a faim en face de toi, plutôt que quand on est dans l'abondance comme on est, bah, de donner un peu, n'est-ce pas, au tiers-monde ou comme les bonnes âmes, n'est-ce pas, qui se sentent extrêmement vertueuses parce qu'elles ont donné 100 sous à une organisation caritative quelconque pour le tiers-monde. Vous voyez, c'est différent. Et ça, c'est la vraie liberté. Le prisonnier français qui prenait de son pain, de sa ration quotidienne de pain pour donner aux Russes qui étaient à côté de lui, parfois d'ailleurs tout en sachant qu'il allait mourir, qu'il était de toute façon condamné, qu'il avait le typhus, etc. Et que somme toute, ça servait à rien de lui donner ce pain, sa propre subsistance à lui. Mais qu'il le faisait comme cet homme dont on parlait tout à l'heure, au Chambon, cette dame au Chambon, ben parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y avait un sentiment humain. Peut-être même pas à cause de la foi en Dieu, mais tout simplement parce que c'est un homme qui n'aurait pas été en paix avec sa conscience s'il avait vu ce pauvre Russe mourir à côté de lui de faim, alors que lui mourait presque de faim, mais avait un petit peu plus que lui. Ça, c'est un acte de liberté. Ça, c'est la liberté. La liberté d'aller au-delà de ce qui est normal, de ce qui est naturel. Encore une fois, aucune loi lui demandait. Personne n'avait le droit de lui demander de partager son pain avec ce malheureux-là. Mais c'était sa dignité d'homme de le faire. Et d'ailleurs, quand il y a de tels actes de liberté, ben c'est ça le véritable héroïsme. Le véritable héroïsme, c'est d'avoir cet acte de liberté, cette conduite libre. Et c'est pourquoi la liberté est au centre de l'Évangile. Elle est indissociable de l'amour. L'homme est libre parce qu'il est capable d'aimer. Et étant aimé en Jésus-Christ, est rendu capable d'aimer par la nouvelle naissance, il est capable justement de dire non à ses instincts, de dire non à ce qui est naturel, et même d'aller au-delà de la loi. Alors bien sûr qu'il faut une loi. Il n'y a pas de liberté sans loi. Mais l'amour va plus loin que la loi. L'amour est une loi en elle-même et va au-delà, n'est-ce pas ? La loi dira tu ne voleras pas. Alors s'il avait volé le pain du malheureux, le peu de pain qui était celui du Russe à côté de lui, ce qui arrivait d'ailleurs de temps en temps dans les camps, il aurait violé la loi. Mais s'il s'était contenté de manger son pain sans s'occuper de celui qui était à côté de lui, il n'aurait pas violé la loi. Mais il n'aurait pas accompli la loi d'amour. Vous voyez ? La loi d'amour, c'était de partager son pain. Et ça, c'est la véritable liberté, la liberté de l'amour. Alors, voyez-vous qu'on est loin de cette pseudo-liberté dont on nous rabat les oreilles actuellement, jouissez sans contrainte, etc., etc. C'est la liberté de l'Évangile. Alors, je suis libre. Je suis libre de la part des implications de la chair. Et puis, la chair aussi, comme elle est marquée par le péché, elle a des passions, c'est-à-dire des choses qui sont franchement mauvaises, des choses qui sont contraires à la loi. Et dans ces cas-là, justement, la loi de Dieu. Et là, pour me rappeler la différence entre le juste et l'injuste, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est justement du domaine de la nécessité mauvaise, de la nécessité du péché, car le péché est la négation de la liberté. Or, aujourd'hui, on dit, se livrer au péché, c'est ça la liberté. Mais le péché est la négation de la liberté, parce que le péché est la pire des nécessités. Et la nécessité du péché conduit à la nécessité de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et à partir du moment où quelqu'un se livre au péché, eh bien, il entre dans la voie de la mort, il entre dans la voie de la nécessité, il entre dans la voie de la négation de la liberté. Et aujourd'hui, où le péché est érigé en dogme et nié, eh bien, le résultat, eh bien, c'est la disparition de la liberté. Et disparition de la liberté, alors que l'on croit justement avoir atteint la liberté. Mai 68, encore une fois, interdit d'interdire, ça y est, on a la liberté maintenant. Et on se rend compte justement que 30 ans après, les libertés disparaissent les unes après les autres. Parce que c'est la conséquence logique. Le péché est nécessité. Et par conséquent, à partir du moment où on nie la loi, on enlève la loi, eh bien on réduit les hommes à la nécessité et à l'hubris, encore une fois, la loi du plus fort. Le plus fort impose sa volonté au plus faible. Or, la Bible, justement, nous amène dans l'amour à avoir le souci du faible. Le plus important, c'est le faible. C'est le petit, c'est celui qui souffre. C'est celui-là qui est le plus important pour la Bible, pour l'amour. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne souffrent pas, on n'a pas à les aimer. Mais c'est surtout ceux qui souffrent. C'est surtout ceux qui sont dans le besoin. C'est surtout ceux-là qui ont besoin de l'amour, n'est-ce pas? Or, justement, à partir du moment où l'on nie ces choses, et l'amour devient synonyme de sexualité débridée, eh bien, on arrive justement au contraire de la liberté. Et toutes les libertés disparaissent. C'est la pensée unique. Et c'est vers quoi on s'achemine ces temps-ci. Alors, voyez-vous, là, il y a un point extrêmement important. La liberté, encore une fois, mais bien comprise dans ce sens-là, est la base même de l'Évangile. Parce que, justement, elle est le fondement de l'amour. Et à partir de ce moment-là, l'homme qui agit de cette manière-là est responsable et se veut responsable. Et il est pleinement homme. Et quand l'homme, justement, découvre sa culpabilité, parce que c'est vrai que l'homme est pécheur et que la loi de Dieu, la parole de Dieu l'amène à découvrir sa culpabilité, eh bien, s'il assume sa responsabilité, s'il assume sa culpabilité, alors là, il devient homme. Et dans l'humiliation, et ça c'est le grand texte de la Bible, dans la repentance, il y a une grandeur. L'homme qui s'humilie se grandit, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui refuse de s'humilier, qui refuse de reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité, eh bien celui-là se diminue et il devient le zéro dont on parlait tout à l'heure. Tandis qu'au contraire, l'homme qui s'humilie devant Dieu, l'homme qui reconnaît sa culpabilité, eh bien celui-là, Dieu le relève. Et à ce moment-là, il est aux antipodes de ce que nous disons tout à l'heure. L'homme moderne qui vit dans l'angoisse de la mort, du néant, de n'être qu'un zéro, que n'être rien, n'est-ce pas ? Eh bien, il se découvre quelque chose devant Dieu. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alors, je te condamne. Mais précisément, tu es condamné. Et en étant condamné, tu retrouves une dignité d'homme. Et alors, j'accepte cette condamnation. Mais en même temps, en Jésus-Christ, l'homme, voici l'homme, n'est-ce pas ? La condamnation est ôtée. Et c'est le pardon de Dieu. Mais il n'y a pas de pardon sans d'abord, justement, la condamnation prononcée par Dieu. Condamnation sur ta conduite. Condamnation sur ton péché. Et dans la mesure où tu acceptes cette condamnation, tu commences à redevenir homme. Et à ce moment-là seulement, tu peux recevoir le pardon de Dieu. Voyez-vous, alors on pourrait parler des heures et des heures sur cette question de la liberté. Mais c'est quelque chose de fondamental. Et là, on est aux antipodes, justement, de ce qu'on appelle aujourd'hui liberté dans le monde. Et ce sont deux notions de la liberté, deux conceptions de la liberté qui sont absolument irréconciliables. Et c'est pourquoi il y a un dialogue de sourds aujourd'hui entre l'Évangile et puis les gens du monde. Et finalement, aujourd'hui, à cause de ça, beaucoup de chrétiens ont baissé les bras, disant, bon, ben, écoutez, adoptons aussi l'idée de la liberté qui est celle du monde. Après tout, Dieu est amour, Dieu tolère, Dieu accepte, etc. La prochaine fois, on va parler de la tolérance. Et finalement... C'est le message de l'Évangile qui est vidé. Car précisément, à la base de l'Évangile, il y a cette affirmation de la liberté qui vient dans les premières pages de la Bible. Adam, où es-tu ? Homme, où es-tu ? Adam, c'est l'homme. Adam, où es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit ? Tu es coupable. Il y a une condamnation sur toi. Une condamnation parce que tu es homme. Et c'est ta dignité d'homme d'accepter ta condamnation. Et c'est ce que fait Adam, d'ailleurs. Alors voilà, c'est la difficulté de l'évangélisation aujourd'hui. Elle est là, elle touche à ça. Et c'est pourquoi, justement, pour nous, ici, on touche à un sujet absolument central, absolument essentiel. Bon, je vais m'arrêter là ce soir. La prochaine fois, on verra, justement, liberté et tolérance. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus, rapidement ? Tu prends juste ton crayon ? Oui, il y a un déterminisme.
Alors, tu commences à me penser que tu ne vas pas nier la finalité de l'être.
Bah, parce que finalement...
Et à ce moment-là, ça se rejoint.
Alors, il y a plusieurs manières de... Bon, ou alors tu as une finalité pour l'espèce et pas pour l'individu. Et c'est le marxisme, c'est le transformisme, c'est tout ça, quoi. C'est l'idée que finalement, on va vers un progrès de l'espèce, quoi. C'est l'espèce qui est importante et pas l'individu. Tu as ça un peu aussi dans l'écologie. Ou alors, il n'y a pas de finalité quand même, dans la mesure où tout s'arrête à la mort. Et c'est pourquoi, justement, la seule chose qui reste, c'est, c'est de construire ce monde technique, c'est tout. C'est le contraire de la liberté. Mais oui, mais d'accord. Mais ça, on ne voit pas cette énormité. Mais c'est ça. Mais les philosophes ou les pseudo-philosophes qui prônent ce genre de choses-là ne voient pas que c'est une contradiction. Ils se contredisent eux-mêmes. Seulement, c'est ce qui va dans le sens de ce que la chair aime, de ce que l'homme recherche. C'est tout ça. C'est ça le problème.
Comme finalité, il y a la notion d'évolution. Quoi.
Oui.
La morale chrétienne, finalement, de sauver son prochain, c'était une évolution bien comprise. Quoi.
Oui.
C'était finalement instinctif dans l'être humain.
Oui, oui.
Que finalement,
oui, oui.
Bon, c'est idiot.
Oui, tout est idiot. Oui. Oui, oui, oui.
Mais il poussait loin. Quoi.
Oui, oui,
finalement,
oui.
Là, il était interrogé. Mais alors, à ce moment-là, ceux qui se dévouent, comme ce que vous dites, quoi, qui prouvent la liberté, oh, en fin de compte, c'est
oui, oui.
Une évolution bien comprise.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Parce que finalement, à faire ça, il sauve son prochain. Il parlait même des camps de concentration.
Oui, 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 oui.
Vous avez les actes extraordinaires qui ont été faits. Oui, oui. Bon, finalement, en fin de compte, c'est mieux pour l'espèce.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Finalement, on revient au freudisme. Si on analysait à fond. Quelles sont les motivations de l'acte, souvent inconscientes à celui qui les a faites, on se rendrait compte que finalement, il y a eu quelque chose qui l'a déterminé, donc il n'est pas libre. C'est ça, c'est l'idée. Mais bon. Ça, c'est bien gentil. Ça, c'était une philosophie qui avait cours au début du siècle, essentiellement. Après les deux guerres mondiales, quand on dit qu'il y a un progrès, là aussi, au niveau moral, ben, je crois que maintenant, beaucoup en sont revenus quand même, quoi. Ben oui. Oui, ça revient. Ça revient parce que, justement, on arrive à ce stade, maintenant. Voilà. Non seulement... C'est pas vraiment qu'elles sont oubliées. C'est parce que, comme on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est de revenir à l'Évangile, et qu'on ne veut pas revenir à l'Évangile, ben, on est obligé de ressortir les vieux poncifs éculés. Et notamment, justement, par exemple, aussi ces notions du refus de la création, alors que maintenant il y a le Big Bang, dont on sait fort bien qu'il y a eu un commencement. Eh bien, tu as les notions qui ressortent de. Ah oui, mais que le Big Bang était quand même, après tout, il y avait peut-être déjà quelque chose de préexistant qui se transforme. Enfin, on ressort les poncifs éculés du début du siècle parce qu'on n'a rien d'autre de mieux à se mettre sous la dent, c'est tout. Mais le problème, c'est que ça, c'est le fait de quelques philosophes de broussailles. Mais pour le grand public, ça passe pas. Pour le grand public, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à attendre de rien. Hein. Comme disait Mme Littmann, la Shoah, bon, ben, elle poussait un peu trop loin. Mais il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. On parlait de ça hein, quand on était après l'histoire, on avait vu les instruments de torture, là, etc. Bon, ben, après la Shoah, qu'est-ce que vous voulez, plus rien ne jamais sera pareil. Quoi, hein, parce que là, c'est l'horreur absolue. Hein. Détruire des gens tout simplement pour ce qu'ils sont. Et même pas pour ce qu'ils sont faits ou qu'ils seraient susceptibles de faire, simplement pour ce qu'ils sont. Bon, alors là, c'est l'horreur absolue. Donc là, c'est ce que disait d'ailleurs aussi la dame que tu as interviewée, il y a de quoi désespérer de l'homme. Il y a de quoi désespérer de l'homme totalement. Et finalement, c'est ce que font la majorité des gens. Bon, ben, il n'y a plus rien à temps. Donc, mangeons et buvons, demain nous mourrons. D'où justement ce que disait le sous-préfet là-bas, qui était directeur des festivités de l'an 2000. Il y a une demande pour qu'on fasse un truc festif à la fin du siècle. On oublie un peu toutes ces horreurs, qu'on quitte le siècle autrement que dans l'horreur, etc., avec l'espoir que le 21e siècle, ce sera un peu mieux. Quoi. C'est ça, c'est l'idée. C'est tout ça. Mais voilà, mais tout à fait.
On les condamne,
mais tout à fait.
Ils peuvent, bon, je dis pas qu'il n'y a pas un aspect.
Oui, oui, oui.
Pour être simpliste, mais quand même, je trouve que des fois, il y a vraiment un mépris de l'homme et un désespoir. Bien,
mais d'ailleurs, tu as ça dans un des textes bibliques chez Pierre.
Moi, mon chat, je l'ai fait opérer, mais c'est très pareil.
Quoi, hein. Oui, ben, c'est ça. Oui, 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 oui. D'ailleurs, les nazis faisaient ça. Ils stérilisaient
les. Chez les gens, c'est courant. Hein.
Mais tout à fait.
Il faudrait plutôt les enfermer et tout.
Mais tout à fait. Mais tout à fait.
Les amis, il aurait mieux qu'ils soient condamnés.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et tu as ça dans la Bible, comme des bêtes, et je ne sais plus comment, c'est dans Judas ou dans Pierre, ils se livrent à, ils prennent plaisir à la volupté en plein jour, comme des bêtes qui se, les truies qui retournent, enfin il y a tout un texte là-dessus, n'est-ce pas ? Et ils déshonorent leur propre corps, Et ça, c'est pas simplement ceux qui se livrent à ces choses-là, mais c'est ceux qui approuvent ces choses, qui les justifient dans les termes. Ils avaient l'islam, et c'est pour ça justement que, comme le disait fort bien Francis Schaeffer, l'homme moderne est un désespéré, parce qu'il n'a plus rien d'humain, il a été déshumanisé totalement, en lui disant ça va être mieux, etc. Mais non, c'est pas mieux. De fait, d'ailleurs, on voit ça chez l'enfant. L'enfant, quand il reçoit une fessée, ben, il crie, il tempête. Mais au fond lui-même, il est rassuré. Parce que donc, d'abord, c'est un point de repère, il sait qu'il a mal fait, et puis en même temps, il a un sens de la responsabilité qui n'est. Tandis que justement, beaucoup d'enfants sont déstructurés aujourd'hui et malades, justement, de ce qu'on voulait leur éviter, les névroses et toutes ces choses-là, parce que justement, ils n'ont pas de structure. Ayant été habitués à faire tout ce qu'ils voulaient, etc., sans aucune contrainte, sans rien, eh bien, ils ne savent plus ce qu'ils sont. Ils sont comme des navires sans gouvernail qui vont de droite et de gauche, conduits par toutes sortes de choses. Or, le gouvernail, Luc nous dira ça, c'est par là qu'on dirige le bateau. S'il n'y a pas de gouvernail dans un bateau, c'est la catastrophe. Alors, on dira, c'est la liberté, il va à tout vent, c'est pas une vague vient par-ci, top, ça l'emmène par là. Un vent vient par là, ça l'emmène par là. Oui, mais il va droit sur les rochers, ou il va droit s'échouer sur le sable. C'est la catastrophe. Or, justement, la vraie liberté, c'est d'avoir le gouvernail en main. Je veux aller là. Alors, bon, j'ai le vent qui va dans le sens contraire. Bon, je vais comme ça, contre le vent, et puis je vais quand même dans ma direction. J'ai décidé que j'irai là. Je prends les moyens pour y aller. C'est ça, la liberté. C'est ça. C'est pas le bateau qui n'a pas de gouvernail, qui va comme ça, n'importe où. C'est pas la liberté, ça.